Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous, bienvenue donc sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez effectivement Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, tous les samedis entre 12h et 13h, nous feuilletons ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique afin de nous tenir un petit peu informés de l'actualité. Alors, la semaine dernière, on avait une émission quand même très très orientée médecine, santé, et je n'avais pas eu le temps la semaine dernière de pouvoir évoquer. Il me reste encore deux articles que l'on va découvrir dans cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 27 septembre. Au niveau de l'éphéméride, il y a l'inauguration du chemin de fer de Stockton et d'Arlington. C'est la première ligne de chemin de fer à utiliser des locomotives à vapeur et à transporter des voyageurs le 27 septembre 1825. Donc ça fait 200 ans en fait qu'il y a cette première ligne de chemin de fer à utiliser des locomotives à vapeur et à transporter des voyageurs. Et en 1981, donc il y a 44 ans, c'est l'entrée en service officielle du TGV en France entre Paris et Lyon. C'était donc il y a 44 ans, c'était un 27 septembre. Naissance d'Adolphe Wilhelm Kolbe, chimiste allemand. Il est né le 27 septembre 1818. Parmi ses travaux, il va essayer de travailler sur l'acide salicylique, qui est l'un des constituants de l'aspirine, par un procédé connu sous le nom de synthèse de Kolbe. Donc comme ça, on a gardé son nom à ce chimiste allemand. L'acide salicylique, à chaque fois je pense aux Inconnus, je crois que c'est dans un sketch où ils essayent de dire correctement l'acide. Ah non, c'est acétyl salicylique, je crois que dans leur sketch. Là, c'est l'acide salicylique qui est quand même un constituant de l'aspirine. Décès le 27 septembre 1783 d'Étienne Bézout, mathématicien français. Il est passé à la postérité pour le théorème de Bachet-Bézout en arithmétique, pour le Bézoutien ou le Bézoutien qui est utilisé en algorithmique, et pour son théorème sur le nombre de points d'intersection de deux courbes algébriques, résultat crucial en géométrie algébrique. Alors, on va s'abstenir totalement dans cette émission d'aller plus loin dans les mathématiques, parce que quelque part, ça peut être aussi une frustration, mais franchement, de parler de physique nucléaire et de parler de mathématiques à la radio, c'est quand même assez complexe parce que, comme ce sont des notions assez abstraites, on a toujours besoin en général d'avoir des visuels pour pouvoir aborder ces sujets-là. Et alors, par le biais de la radio, vous parlez de ce nombre de points d'intersection de deux courbes algébriques. C'est quand même assez complexe. En tout cas, c'est le fruit du travail de ce mathématicien français, Étienne Bézout, qui est donc décédé un 27 septembre 1783. Donc on est au 18e siècle, mais ça permettait quand même d'honorer sa mémoire à Étienne Bézout, bien sûr. Alors, les deux articles qui me restaient de la semaine dernière sont assez intéressants. Il y en a un qui parle de l'hypertension. Il y a une recherche assez prometteuse qui a été menée conjointement par des équipes américaines et australiennes, qui a été publiée dans l'International Diary Journal il y a quelques années. Alors, bien que cette découverte ne date pas d'hier, eh bien ses implications restent particulièrement pertinentes aujourd'hui, d'autant que l'hypertension continue de progresser dans nos sociétés modernes. Et l'objectif de cet article était d'analyser comment un produit laitier fermenté pourrait devenir un allié précieux dans la gestion naturelle de la pression artérielle. Il y a environ 900 adultes âgés en moyenne de 62 ans qui ont participé à cette étude d'envergure internationale. Les chercheurs ont minutieusement analysé les habitudes alimentaires de ces volontaires en portant une attention particulière à leur consommation de produits laitiers fermentés. Et les résultats se révèlent particulièrement encourageants. Les participants consommant 1 à 2 yaourts quotidiennement présenteraient une diminution notable de leur tension artérielle. Et cette baisse s'avère cliniquement significative, ce qui suggère un réel potentiel thérapeutique de cet aliment du quotidien. Et donc l'étude montre que les probiotiques contenus dans ces yaourts exercent une action bénéfique sur le système cardiovasculaire. Ces microbiotiques, c'est des micro-organismes vivants qui contribuent à réguler de façon naturelle la pression sanguine par différents mécanismes biologiques qui sont encore aujourd'hui à l'étude. Le Haut Conseil de la Santé publique recommande en revanche la modération. 2 yaourts maximum par jour constituent le seuil optimal. Au-delà de cette consommation, les bénéfices pourraient s'estomper, voire produire des effets secondaires indésirables. Les bienfaits cardiovasculaires du yaourt s'expliquent par sa richesse en probiotiques, ces bactéries bénéfiques qui colonisent notre microbiote intestinal, et ces micro-organismes participent activement à l'équilibre de notre flore digestive, et cela va avoir une influence indirecte sur notre pression artérielle. Alors, cette action s'étend bien au-delà du système digestif. Les recherches valident que la consommation régulière de yaourt favorise également la prévention du diabète de type 2, qui est une pathologie étroitement liée aux troubles cardiovasculaires. Le calcium et le potassium naturellement présents dans ce produit laitier contribuent également à la régulation de la tension, parce que ces minéraux essentiels participe au maintien de l'équilibre électrolytique, c'est un facteur crucial dans le contrôle de la pression sanguine. Les peptides bioactifs qui sont générés lors de la fermentation lactique possèdent aussi des propriétés hypotensives documentées. Ces molécules, elles agissent comme des inhibiteurs naturels de l'enzyme de conversion d'un mécanisme un petit peu similaire à certains médicaments anti-hypertenseurs. Bref, c'est quand même assez bénéfique tout cela. L'intégration du yaourt dans une stratégie anti-hypertensive nécessite une approche globale de l'alimentation et donc les spécialistes insistent sur la nécessité de réduire simultanément certains aliments problématiques. Le sel, qui est le principal ennemi de la tension artérielle, les graisses d'origine animale qui sont source d'inflammation, le sucre raffiné qui est un perturbateur métabolique et la viande rouge qui est riche en sodium naturel. Et donc cette approche nutritionnelle doit s'accompagner d'une surveillance médicale régulière. Les symptômes d'alerte incluent des maux de tête persistants, un essoufflement anormal, des palpitations cardiaques, des vertiges inexpliqués, des sueurs nocturnes, des troubles du sommeil et des saignements du nez récurrents. Alors, la consultation médicale reste bien sûr indispensable pour établir un diagnostic précis et adapter le traitement. Mais donc, le yaourt constitue un complément nutritionnel intéressant. Mais bien sûr, nous dit-on, ça ne va pas remplacer quand même un suivi médical approprié dans la gestion de l'hypertension artérielle. Donc, cette découverte scientifique, elle ouvre de nouvelles perspectives dans la prévention cardiovasculaire naturelle et démontre qu'un simple yaourt quotidien peut contribuer efficacement à la lutte contre l'hypertension. Donc voilà, les scientifiques dévoilent enfin l'aliment parfait, notamment apparemment pour protéger notre cœur, et c'est tant mieux. Deuxième article que je voulais évoquer la semaine dernière, c'était les édulcorants. Donc là, on est moins sur une information optimiste, mais en tout cas, c'était important d'évoquer de précédentes études qui avaient montré l'impact de la consommation d'édulcorants artificiels sur la santé. Elle est notamment associée à un risque accru de cancer, de surpoids, d'obésité et à une modification du microbiote intestinal. Mais pour la première fois, il y a des chercheurs qui mettent en lumière les effets des substituts du sucre sur la santé cognitive. Les édulcorants, en fait, ce sont des substances qui sont utilisées par l'industrie agroalimentaire pour réduire la teneur en sucre ajouté dans les produits et donc les calories, sans pour autant supprimer leur goût sucré. Alors, ils sont présents dans de nombreux aliments et dans de nombreuses boissons. Les plus connus et les plus utilisés, c'est bien sûr l'aspartame, le sucralose, qui sont respectivement 200 fois pour l'aspartame et 600 fois pour le sucralose, plus sucré que le sucre classique. Et il y a une étude qui a été publiée début septembre dans la revue Neurology, qui rapporte que les plus gros consommateurs d'édulcorants affichent un déclin accéléré de leur capacité de mémoire et de réflexion par rapport à ceux qui en consomment peu. Et cet effet représenterait un vieillissement cognitif accéléré de 1,6 années. C'est le docteur Claudia Kimi-Suernoto qui est l'auteur de cette étude et qui est aussi professeur en gériatrie à l'université de Sao Paulo au Brésil. Alors pour arriver à ce constat, les chercheurs brésiliens ont suivi plus de 12 000 personnes issues pendant 8 ans. Alors on est quand même sur une étude assez intéressante parce que là on est sur un panel assez important. Les participants étaient âgés en moyenne de 52 ans au début des recherches. Ils ont dû répondre à des questions concernant leurs habitudes alimentaires et en analysant les réponses, les chercheurs ont estimé leur consommation d'édulcorants qui était en moyenne de 92 mg par jour et par personne. Et parmi les édulcorants, il y en a 7 qui ont été étudiés. Et à la fin de l'étude, les personnes qui consommaient le plus d'édulcorants, soit une quantité équivalente en 191 mg par jour, c'est-à-dire qu'ils étaient le double de la moyenne pour l'ensemble de ce groupe de personnes, eh bien, ils ont présenté un déclin cognitif beaucoup plus marqué que celles qui ont consommé le moins. La baisse de leur capacité de mémoire et de réflexion était 62% plus rapide que celle des personnes ayant une consommation d'édulcorants plus faible. Cette accélération du déclin cognitif était encore plus importante chez les participants diabétiques, c'est ce que rapportent les chercheurs. Donc l'étude souligne que ce déclin cognitif prématuré était plus prononcé chez les moins de 60 ans, surtout au niveau de la fluidité de parole et de la mémoire. Toutefois, la consommation excessive d'édulcorants n'a pas provoqué d'effet aussi significatif chez les plus de 60 ans, c'est ce que précisent les chercheurs. Donc le docteur, Claudia Kimi Suanoto explique « On pense que le déclin cognitif et la démence commencent à se développer plusieurs décennies avant que les symptômes ne deviennent perceptibles. L'exposition à ces substances à l'âge mûr pourrait donc accélérer ces processus et avoir des conséquences à long terme. » Alors cette étude, elle n'établit pas formellement un lien de cause à effet. En observant les résultats, les chercheurs suggèrent une association possible entre une consommation importante d'édulcorants et un déclin cognitif prématuré. Mais bon, là, on est quand même sur une première étape de cette étude. Bien sûr, on n'a pas encore quelque chose de totalement bien établi. Ça donne quelques pistes, en fait. C'est ça l'idée. Ça donne quelques hypothèses. Cette étude présente également une limite importante. C'est l'estimation de la quantité d'édulcorants ingéré pendant 8 ans, parce que ça se base sur les déclarations des participants. Ça peut donc être imprécis, on n'a donc pas nécessairement quelque chose de, comment dire, de scientifiquement, j'allais dire juste, c'est pas le mot, mais en tout cas, le niveau de précision est encore un petit peu... Je trouve pas le mot. Je suis peut-être atteint, moi, déjà aussi de ces maladies, c'est horrible. Non, je veux dire que, comme on est sur une déclaration des personnes, ça veut pas dire que ce qu'elles disent est la réalité de ce qu'elles ont véritablement ingéré en termes d'édulcorants. Donc là, on a aussi, une incertitude qui rajoute encore dans le fait qu'on n'est pas totalement... on ne peut pas être totalement définitif sur les résultats de cette étude. Néanmoins, comme on l'a dit, c'est une étude qui a été menée sur une population assez importante et ça a le mérite d'interpeller sur les effets indésirables potentiels liés à la consommation à long terme des édulcorants. Donc, on est sur un constat, on va dire. On n'est pas nécessairement sur un lien de cause à effet clairement établi. Il n'empêche que, bien sûr, ça permet d'avoir quelques pistes assez importantes sur ces édulcorants. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle des édulcorants dans cette émission et des impacts qu'il peut y avoir sur notre santé. Voilà, c'était deux articles que je voulais évoquer la semaine dernière, que je n'avais pas eu le temps, donc je les évoque aujourd'hui. On écoute un peu de musique aussi, ça va nous faire du bien. En plus, le groupe s'appelle Meringue, encore du sucre. You saved my life twice today. I was hanging around under an axe. I'm trying to run away. It's not that I don't like you, but I can't say thank you to a man with a bottle. You saved my life twice today. I was hanging around under the sea, and you gave me air to breathe. I'm swimming away. It's not that I don't like you,
But I can't say thank you to a girl with a tan. Leave me now, I'm trying to forget that I'm alive and fine. Leave me now, I'm trying to forget that I'm alive and fine. I saved your life twice today. You were climbing a tree without your belt. I'm trying to run away, but you follow me everywhere. I can't stand the noise of your steps in the snow, in the sand.
You saved my life twice today. C'était donc Meringue, Alcool and Us sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Les combinaisons spatiales, on va partir dans l'espace, qui sont portées par les astronautes, sont particulièrement épaisses et volumineuses. On s'en doute, même si on n'en a jamais porté, mais on suppose que ça ne doit pas être nécessairement souple. Ça doit peut-être pas nécessairement être agréable de voir ça, mais enfin bon, elles sont quand même nécessaires pour protéger les êtres humains du vide de l'espace et des grandes variations de température. Mais elles gênent bien sûr les mouvements. Et un problème en particulier est apparu lors des missions sur la Lune. Lorsqu'ils tombent, les astronautes du mal à se relever. Le manque de visibilité, la gravité différente de celle de la Terre et une combinaison qui limite les mouvements, eh bien tout ça contribue à rendre l'opération extrêmement difficile. Eh bien pour tenter de résoudre ce problème, une équipe de chercheurs du MIT, le fameux MIT, c'est l'Institut de technologie du Massachusetts, qui met au point une paire de bras robotiques. Le système, qui est un peu inspiré par l'inspecteur Gadget, eh bien a été baptisé Super Limbs. Les bras seraient connectés à un sac à dos contenant les batteries et les moteurs, et ils pourraient s'activer, ces bras, dès que l'astronaute a besoin d'assistance. Les chercheurs ont conçu les bras robotiques à l'aide d'une intelligence artificielle afin d'analyser de nombreuses conceptions possibles pour trouver le design qui consomme le moins d'énergie pour soulever une personne. Alors, mieux encore, ces bras pourraient permettre aux astronautes de se déplacer comme un crabe sur la surface extérieure d'un astronef pendant qu'ils mènent des inspections ou des réparations. Et ce projet est on ne peut plus sérieux, les chercheurs collaborent avec les ingénieurs de la NASA afin de pouvoir l'améliorer, l'optimiser, et ils espèrent l'introduire au sein du centre spatial Lyndon Johnson d'ici un an ou deux, afin que les astronautes puissent le tester. Donc voilà, le MIT crée des bras robotiques pour les astronautes, et donc ça va avoir un impact sur les missions sur la Lune notamment. Ben on verra ça. Ça va faire bizarre de voir des astronautes avec un sac à dos où il y a des bras robotiques qui sortent. je sais pas, visuellement, ça peut être très intéressant, effectivement. Et technologiquement, c'est quand même assez intéressant, bien sûr. Comme on parle d'espace, on va parler de ces fusées particulières. Il y a des industriels qui cherchent à verdir un petit peu leur production. Il y a une énergie renouvelable issue des déchets organiques qui retient de plus en plus leur attention. C'est ce qu'on appelle le biométhane. Il est produit à partir de restes alimentaires, de boues d'épuration, également au niveau des effluents d'élevage, hein, tout ça. C'est un gaz qui s'impose comme une alternative crédible au gaz fossile. Le procédé de fabrication repose sur la méthanisation, qui est un processus naturel dans lequel des bactéries décomposent de la matière organique en l'absence d'oxygène. Et donc cette fermentation, elle produit un gaz, un biogaz, qui, une fois purifié, devient du biométhane. Et ce gaz est quasiment identique au gaz naturel, sans odeur, 100% renouvelable et surtout moins émetteur de carbone. Et donc à l'usage, le biométhane peut alimenter le réseau de gaz pour chauffer des logements, pour cuisiner ou encore faire rouler des véhicules. Il est également utilisé pour produire l'électricité de la chaleur. Et ces résidus peuvent servir également d'engrais naturels. Sauf que on apprend que l'utilisation du biométhane ne se limite pas au secteur agricole ou domestique. Il y a une start-up japonaise qui s'appelle Interstellar Technology, qui développe une fusée qui est baptisée Zéro. Elle est propulsée au biométhane liquide qui est issu du fumier de vache. Oui, oui, on va pouvoir propulser une fusée grâce à de la bouse de vache. Ça existe. Cette fusée a été conçue pour mettre en orbite des petits satellites. C'est une fusée de 32 mètres qui pourra transporter jusqu'à 800 kg en orbite basse. C'est quand même pas mal. Les premiers essais menés au Japon ont été concluants et un lancement est prévu donc cette année. Cette innovation illustre le potentiel du biométhane dans le développement d'un spatial plus durable. Alors, bien que la méthanisation soit une découverte ancienne, hein, parce que le méthane a été identifié dès 1776, son développement industriel, il est longtemps resté marginal. C'était déjà utilisé dans certaines fermes françaises dans les années 1930, mais la production de biogaz a connu des phases d'intérêt ponctuel, souvent lors de crises énergétiques. Mais à chaque retour du pétrole bon marché, eh bien, on relègue un petit peu au second plan ce biogaz. Aujourd'hui, avec la nécessité d'une transition énergétique, eh bien, ce biométhane revient sur le devant de la scène. Et donc le fumier, qui est une ressource locale et abondante, devient un levier central de cette dynamique. En transformant donc les déchets agricoles en énergie, eh bien, cette filière offre une solution à la fois écologique et économique pour les agriculteurs, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Alors, malgré ces atouts, le biométhane soulève des critiques. Sa production, lorsqu'elle repose sur des cultures dédiées comme le maïs, peut entrer en concurrence avec l'agriculture alimentaire. Il y a des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent également survenir en cas de mauvaise gestion des installations. Puis enfin, les unités de méthanisation peuvent générer des nuisances olfactives. Tu m'étonnes, ça ne va pas être vraiment être agréable d'être à côté. Ou sonores, ce qui suscite bien sûr l'opposition des riverains. Donc, les experts s'accordent quand même cependant sur un point. Quand on produit à petite échelle, à partir de déchets existants et dans le respect des normes environnementales strictes, eh bien le biométhane représente un levier efficace pour soutenir la transition énergétique, notamment dans des territoires ruraux, une énergie verte qui puise dans le passé pour éclaircir l'avenir, nous dit-on. En tout cas, ça peut être une piste assez intéressante, mais le fait de savoir que cette start-up japonaise, on ne parle pas souvent du Japon quand on parle d'espace, mais donc là, la start-up japonaise développe une fusée qui va être propulsée au biométhane issu du fumier de vache. Je veux dire, là, quand on a dit ça, je ne sais pas comment on peut conclure. En fait, on a presque tout dit, c'est quand même assez fascinant. Mais finalement, quelque part, c'est assez malin aussi. Ça donne une... Comment dire ça? Ça donne une application concrète sur une utilisation. Alors, j'allais dire un circuit court, peut-être pas nécessairement, parce qu'on voit très mal quand même d'avoir des lancements de fusées à partir des zones rurales. Mais bon, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose qu'il faudrait essayer d'étudier, d'expérimenter, peut-être un petit peu plus grande échelle, peut-être. à voir. Comme on parle d'espace, on va parler de Sophie Hanneau. Dans les bagages de Sophie Hanneau, à destination de la Station Spatiale Internationale, on va trouver quelques graines, notamment de l'Arabette des Dames et du Mizuna. Alors, je ne connais pas ces espèces de plantes que l'astronaute français sera chargé de faire pousser dans l'espace. Cela s'inscrit dans le cadre d'une expérience qui a été annoncée en juillet par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Au printemps 2026, le voyage de Sophie Hanneau devrait débuter à l'occasion de la mission Epsilon, prévue pour durer 6 mois. Et donc, cette astronaute française sera alors chargée, entre autres, de conduire des expériences impliquant la jeunesse dans une dimension éducative. Pour cela, sa mission consistera à faire pousser ces deux types de plantes dans l'espace en apesanteur. Et dans le même temps, il y a 4500 établissements scolaires qui vont de l'école primaire au lycée, qui feront la même chose et noteront les différences entre les plantes qui poussent au sol et celles qui poussent en orbite autour de la Terre. Les élèves ainsi que l'astronaute seront chargés de surveiller la croissance des échantillons et de noter quel est l'impact de la lumière ou encore de la gravité sur leur évolution. Le tout en lien avec les programmes de sciences de la vie et de la Terre, de physique, chimie, de mathématiques et de technologie. Donc le CLES, c'est quand même pas la première expérience de ce type. En 2021, il y avait Thomas Pesquet qui avait ainsi aidé à la mise en œuvre d'un programme similaire qui avait été intitulé « Élève ton blob » auquel avaient participé 2000 classes de l'Académie de Toulouse. Chacun de son côté, l'astronaute et les classes scolaires devaient nourrir et faire grandir ce blob, cette espèce d'organisme rendu célèbre en grande partie par Audrey Dussoutour, qu'on avait interviewé il y a quand même quelques années dans cette émission. Une chercheuse qui s'était prise de passion pour le blob, j'arrive jamais à le dire, blob. Elle avait même consacré un bouquin, on en avait parlé avec Carole il y a quelques années maintenant, 5-6 ans je pense, dans cette émission, on avait eu une interview d'Audrey Dussoutour. Donc il y avait ce cas précis en 2021 avec Thomas Pesquet. Et dans le cas des plantes, c'est le même principe. L'idée, c'est d'avoir un organisme relativement facile à prendre en main qui pourrait encourager les jeunes élèves à l'idée, c'est un peu de susciter des vocations pour les carrières scientifiques. C'est un petit peu cette idée-là, et c'est très bien, c'est malin, et on espère que ça sera efficace. Et donc, à ce titre, les organismes choisis pour accompagner Sophie Hanneau n'ont pas été choisis au hasard. Donc, on parlait de l'Arabette des Dames, c'est la star des plantes dans l'espace. Le nom complet, c'est quand même Arabidopsis thaliana. Elle est considérée comme un organisme modèle dont le code génétique est parfaitement séquencé et qui a l'avantage d'avoir une croissance rapide, ce qui en fait la candidate idéale pour un voyage dans l'espace et les analyses qui vont avec. Ainsi, en 2007, le module EXPOSE de la Station Spatiale Internationale avait accueilli des graines qui avaient été exposées au vide et avaient survécu après plus d'un an dans ces conditions. C'est quand même assez intéressant. Et en 2022, il y a d'autres graines qui avaient réussi à germer dans des conditions du sol de la Lune, collectées par les missions Apollo à demi-siècle auparavant. Donc on avait déjà quand même fait pas mal de choses. La deuxième plante, donc, c'est le Mizuna. C'est également un bon client, puisque cette plante, qui rappelle un peu la roquette, avait été choisie en 2019 pour une expérience visant à montrer qu'une agriculture spatiale était possible, ce qui donnerait des produits frais aux astronautes. Une partie avait d'ailleurs été consommée par les occupants de la Station Spatiale Internationale. On avait parlé dans cette émission du fait qu'ils avaient mangé de la salade qui avait poussé dans la Station Spatiale Internationale. Et donc, pour ce projet, pour cette expérience qui avait été menée avec Sophie Hanneau, eh bien les inscriptions sont déjà ouvertes pour les établissements et le projet démarrera donc au printemps prochain, dès l'arrivée de Sophie Hanneau à bord de la station. Donc voilà, elle va faire de la botanique dans l'espace, avec l'idée aussi quelque part d'avoir un projet éducatif et de susciter de la vocation chez les jeunes. C'est ça qui est important. Allez, on écoute The Beyonders sur l'antenne de Graphite et on continue ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
As given me the strong belief that I really am the one you
Curriculum, c'était The Beyonders.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Sur l'antenne de Graphite, vous nous écoutez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. On va parler un peu d'art et notamment de restauration d'art, qui est un domaine qui exige... Pardon, à la fois... Oh, excusez-moi, j'avais de travers. Un domaine qui exige à la fois de la patience et de l'expertise. Eh bien, la restauration d'art vient d'entrer dans une nouvelle ère grâce à une percée technologique majeure. Il y a un étudiant en génie mécanique du MIT, on retrouve encore cet institut de technologie du Massachusetts. Cet étudiant a bouleversé les méthodes conventionnelles en proposant une approche révolutionnaire qui va allier à la fois l'intelligence artificielle et les technologies d'impression avancées. Et donc, cette innovation qui a été publiée dans la revue Nature, quand même cet étudiant il a son article dans Nature, eh bien cette innovation promet non seulement de réduire de façon significative le temps nécessaire à la restauration, mais également d'améliorer la précision et la traçabilité des interventions. Alors tout ça va ouvrir de nouvelles perspectives pour la préservation du patrimoine artistique mondial. Depuis des siècles, en fait, la restauration d'œuvres d'art repose sur un processus méticuleux et chronophage. Les restaurateurs doivent identifier chaque zone endommagée, mélanger minutieusement les pigments pour obtenir la teinte exacte, puis appliquer délicatement la peinture sur les parties qui sont altérées. Cette méthode artisanale, elle est bien sûr efficace, mais elle peut nécessiter plusieurs mois de travail pour une seule œuvre. Et bien, la solution développée par cet étudiant qui s'appelle Alex Kashkin, et cette solution transforme de façon radicale cette approche traditionnelle. Son processus innovant commence par un nettoyage conventionnel de l'œuvre, suivi d'une numérisation haute définition. Et donc l'intelligence artificielle, elle entre en jeu pour reconstruire de façon virtuelle l'état original du tableau. Un logiciel va identifier ensuite précisément les zones à restaurer et va déterminer les couleurs exactes qui sont nécessaires. L'étape finale consiste à utiliser une imprimante à jet d'encre haute fidélité pour créer un espèce de masque de pigments parfaitement aligné avec l'œuvre originale. Et donc, ce film peut être appliqué directement sur le tableau, ce qui va compléter la restauration en quelques heures seulement. C'est une méthode assez intéressante qui a déjà fait ses preuves lors de la restauration d'une peinture du XVe siècle qui avait été gravement endommagée. Donc les résultats obtenus par cette nouvelle approche sont impressionnants tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Lors de ces expérimentations, eh bien cet étudiant Alex Kashkin a démontré que son système pouvait identifier automatiquement plus de 5000 zones qui nécessitaient une restauration, pouvait appliquer plus de 57 000 teintes différentes avec une précision microscopique. Il a prouvé que ça pouvait compléter une restauration complète en environ 3h30, c'est quand même pas mal. Pouvait améliorer le processus jusqu'à 70 fois, accélérer pardon, le processus jusqu'à 70 fois par rapport aux méthodes manuelles. Et puis, pouvait essayer de créer un enregistrement numérique précis de toutes les interventions qui étaient réalisées. On avait vraiment une traçabilité aussi qui était assez intéressante. Et cette performance extraordinaire prend tout son sens lorsqu'on la compare avec les expériences antérieures du chercheur. Kashkin, cet étudiant, explique avoir passé 9 mois entiers à restaurer un tableau baroque italien en utilisant les techniques traditionnelles. Ce qui prenait auparavant plusieurs mois peut désormais être accompli en une seule journée. Effectivement, c'est quand même assez intéressant. La précision de cette méthode est également remarquable. Le logiciel développé par l'étudiant du MIT intègre des connaissances avancées sur la perception humaine des couleurs pour garantir un alignement parfait des couches d'encre blanches et colorées, ce qui évite ainsi les défauts visuels qui sont souvent associés aux restaurations numériques. Et au-delà de la simple accélération du processus de restauration, eh bien cette innovation Elle apporte une dimension totalement nouvelle à la conservation des œuvres d'art. La traçabilité numérique, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que chaque intervention est méticuleusement documentée dans un fichier informatique qui peut être conservé de façon indéfinie. Et donc cette documentation, elle précise elle représente une avancée majeure pour les futures générations de restaurateurs. Et donc Alex Kashkin, il explique la prochaine fois que quelqu'un travaillera sur ce tableau dans 100 ans, il aura une compréhension extrêmement précise de ce qui aura été fait. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que cette transparence, elle était jusqu'alors impossible à obtenir avec des méthodes traditionnelles. Un autre avantage significatif de cette approche réside dans sa réversibilité, c'est-à-dire que le masque de pigment peut être facilement retiré si c'est nécessaire. Ça respecte ainsi le principe fondamental de la restauration moderne qui privilégie les interventions non invasives et réversibles. Alors malgré l'automatisation importante du processus, Alex Kashkin insiste sur l'importance de maintenir l'expertise humaine au cœur de la démarche. Les restaurateurs professionnels doivent, selon lui, superviser chaque étape pour garantir que le résultat final respecte l'intention artistique originale et les spécificités stylistiques de l'œuvre. Et donc cette technologie qui a été développée dans les installations de pointe du MIT pourrait bientôt permettre la préservation d'un nombre assez important de chefs-d'œuvre menacés par le temps, ce qui offre ainsi une seconde vie au patrimoine artistique mondial, tout en respectant son authenticité et son intégrité historique. C'est ça qui est quand même assez intéressant et assez, assez bluffant, bien évidemment. C'est ça qu'on trouve, qui est vraiment intéressant quelque part. C'est une technologie, on respecte l'œuvre et ça se fait de façon quasi instantané, 3h30. Effectivement, c'est quand même assez bluffant, bien sûr. Et comme on parle d'art, et on va parler aussi d'archéologie, à quelques kilomètres au sud de Lyon, la commune de Saint-Romain-en-Galles a récemment été le théâtre d'une découverte archéologique majeure. Cette commune de 1700 habitants voit depuis les années 1960 des chercheurs arpenter ses environs à la recherche de vestiges attribuables aux constructions romaines de l'Antiquité. Et bien, au mois d'août, l'AFP et France 3 ont dévoilé les résultats d'une campagne de fouilles menée au cours de l'été. Il y a des photos aériennes qui exposent un dédale de réseaux enfouis sous la terre. Le site constitue en effet une partie d'une cité antique bâtie après la conquête de la Gaule. Mais ce sont des structures... Ce sont des structures dans le secteur ouest du site qui ont attiré l'attention des archéologues. Pour les experts, tout semble indiquer la présence d'un mausolée d'une taille considérable construit au cours du 1er siècle après Jésus-Christ dont l'architecture ressemble étrangement à celle d'un tombeau impérial. Alors, il y a un site qui fournit de précieuses informations pour comprendre l'importance de la sépulture. Le site s'appelle Finestre Sul Art. Donc, cette sépulture, diamètre 15 mètres, 6 mètres de haut, ça occupe une surface suffisamment étendue pour susciter l'interrogation quant à la dépouille du dignitaire qu'elle pourrait abriter. La tombe prend la forme d'un tumulus, une occurrence relativement rare observée sur seulement 18 sites gallo-romains à travers la France. Les universitaires dressent rapidement une comparaison avec le mausolée d'Auguste, qui est construit à Rome à partir de l'an 28 avant Jésus-Christ, par l'empereur Octave Auguste, et il adopte un aspect circulaire ainsi que des caractéristiques de tumulus également. Et donc le mausolée de Saint-Romain-en-Galles se méprend fortement à celui d'Auguste avec des dimensions moindres. Alors pour l'heure, la dépouille s'y trouvant n'a pas été exhumée par les archéologues, les équipes de volontaires ayant indiqué l'arrêt des fouilles pour la saison 2025. Donc l'identité de la dépouille demeure encore un mystère actuellement, mais l'individu devait occuper une place importante au sein de la société locale, possiblement un dignitaire entretenant des liens avec le pouvoir central à Rome. Alors la découverte d'une voie d'allée antique dans les années 60 a donc entraîné un intérêt croissant pour cette commune, Saint-Romain-en-Galles, qui est depuis explorée par les universitaires. Non loin de la bourgade se situe la ville de Vienne et au 1er siècle après Jésus-Christ, la Vienne antique se transformait en important point d'ancrage pour l'Empire romain dans la région du Rhône. Donc les découvertes de cet été renforcent cette observation. Une construction dont les murs ont été découverts au cours des années 80 serait une bâtisse commerciale en activité entre le 1er et le 2e siècle. dans lequel il y a 8 boutiques qui se seraient développées, hein, c'est ce que précise la revue Historia. Il y a des éléments à l'intérieur qui ont permis aux spécialistes de supposer que du textile était vendu sur place, mais les fouilles sont donc loin d'être terminées à Saint-Romain-en-Galles. Les archéologues de la région planifient déjà leur retour pour une nouvelle campagne à l'été 2026, donc l'année prochaine, ils y retournent, mais en tout cas, bah, vous pouvez voir sur certains sites ce qu'ils ont découvert, ce que cela a donné si vous êtes des passionnés d'archéologie. Allez, on écoute encore un titre et on continue ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique sur Graphite.
Sur le dos, on a déjà trop perdu à la grande sociobraderie pendant l'empereur du grand capital au lien social. Faites la place à mes bourses et serrez-vous la ceinture. Si le fossé se creuse, choisis ton camp, camarade. Clore-nous vos chevaliers dans la croisade économique. Nos comiques en plastique feront le tri sélectif car demain sera pire. On a 3 coups de retard. Sera trop tard. Flexible et fusible et des hommes à la chaîne. À tout faire à ton frère. Est-ce qu'on a des gueules d'actionnaires? Violence désincarnée de la réelle politique. Tu la sens bien dure, mon excroissance économique. Connecté au réseau, c'est l'heure de la TT. Des beautés factices aux objets souverains. L'image suprême aux vitres à mercenaires. Ta dose de conventionnel et fait bonne car demain sera pire. On a 3 coups de retard. Demain les sourires seront pourquoi ils se font rares. On pourra toujours croire qu'on n'a rien vu venir. Ton bulletin d'endure les portiques pour l'abattoir. Il sera trop tard.
Demain, c'est pire. Paraît-il, c'est rouge sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Allez, deux petites informations brèves, assez intéressantes, qui permet d'étaler sa science pendant une réunion entre amis ou en famille ou autre. On sait ce qu'il y a dans les nuages. Hein. Alors, pendant longtemps, les nuages ont été considérés, d'un point de vue scientifique, comme des masses de vapeur d'eau en suspension dans l'atmosphère. Eh bien, dans cet environnement qu'on pourrait croire totalement hostile à la vie, se cache en réalité un monde peuplée de micro-organismes. En fait, l'idée même qu'un être vivant puisse survivre dans un nuage, ça semble difficile à envisager parce que les températures y sont glaciales, hein, souvent moins de 0 degrés Celsius. L'air est sec, il y a une faible teneur en oxygène, il y a une forte exposition aux rayons UV, il y a une présence de substances oxydantes comme l'ozone, le peroxyde d'hydrogène. Bref, les nuages sont tout sauf hospitaliers. Et pourtant, il y a quelques années, sur les hauteurs du Puy-de-Dôme en Auvergne, il y a une équipe du CNRS qui avait installé un dispositif pour étudier la composition chimique des nuages. Et dans les minuscules gouttelettes qu'ils ont recueillies, eh bien, les chercheurs ont détecté des bactéries vivantes. Depuis, il y a eu plein d'études qui se sont multipliées, et donc on a appris qu'il y avait des bactéries, des champignons, des virus, des algues microscopiques. Bref, il y a une biodiversité aérienne qui dépasse toutes les attentes. Et donc, ces micro-organismes qui sont emportés depuis le sol par le vent doivent leur survie à leur capacité d'adaptation. Et les bactéries produisent par exemple des enzymes qui les protègent des dégâts qui sont causés par l'oxydation. Il y a certaines bactéries qui savent même métaboliser le peroxyde d'hydrogène, qui est un composé à la base toxique, et elles le transforment en eau et en oxygène. C'est quand même totalement fascinant. Mais au-delà de leur résistance, c'est leur impact sur les phénomènes météorologiques qui intriguent les chercheurs, parce que ces micro-organismes ne font pas que flotter de façon passive dans les nuages, ils peuvent aussi en modifier le comportement. Il y a certaines bactéries, comme par exemple Pseudomonas sarigae, qui possèdent des protéines spéciales qui font geler l'eau plus facilement autour de moins 5 degrés Celsius. Cela aide les gouttes à se transformer en cristaux de glace qui vont grossir, qui vont s'alourdir et qui vont tomber sous forme de pluie ou de neige. Alors, si les micro-organismes influencent la formation des précipitations, ils participent aussi à la régulation du climat. En modifiant la chimie de l'atmosphère, eh bien, les micro-organismes contenus dans les nuages participent aux grands équilibres climatiques. Et c'est pour cela que certains scientifiques estiment qu'il faudrait les intégrer dans les modèles météo et climatiques pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre ciel. Parce que ces minuscules êtres vivants ont peut-être une influence sur notre monde qui est plus importante que nous l'imaginions. Donc voilà, si vous voulez étaler votre science, eh bien vous pouvez dire qu'il y a de la vie dans les nuages, des bactéries, des champignons, des virus, des algues microscopiques. Bref, il y a une diversité dans les nuages que l'on n'avait pas soupçonné et dont finalement on ne sait pas nécessairement quelles conséquences cela peut avoir. C'est quand même assez fascinant.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Et donc sur Graphite, on va parler des corbeaux. Savez-vous que les corbeaux, qui sont des oiseaux qui sont quand même assez réputés pour leur intelligence, ils ont un remède naturel bien à eux pour se débarrasser des parasites. Depuis plus d'un siècle, il y a des chercheurs qui observent quand même un phénomène assez fascinant. Les corbeaux se roulent dans un nuage de fourmis vivantes. Ce rituel, qui est connu sous le nom de bain de fourmis, peut prendre deux formes différentes. Dans le premier cas, les oiseaux prennent des fourmis avec leur bec et les frottent directement sur leurs plumes. C'est ce que rapportaient des chercheurs en 2015 dans une étude sur ce sujet. Et pour la seconde option, les oiseaux visitent les colonies de fourmis, provoquent les insectes pour qu'ils les attaquent, puis les laissent traverser leur plumage. Et donc, on a certaines fourmis de genre Formica ou Myrmica notamment, qui produisent un espèce d'acide, qui est un acide formique, et d'autres substances chimiques aux propriétés antimicrobiennes, ce qui a conduit les chercheurs à penser que ces bains pourrait permettre aux corbeaux de se débarrasser des tiques ou des autres parasites, ainsi qu'offrir une protection contre certaines infections. Mais le phénomène pourrait aller au-delà de la simple hygiène. Il y a certains chercheurs qui ont suggéré que ce comportement pourrait simplement être une forme d'autostimulation similaire à des activités humaines comme fumer, sans objectif biologique direct. Si les chercheurs tendent à être d'accord sur l'interprétation hygiénique de cette pratique, il n'y a aucune hypothèse qui a pour l'instant été confirmée de manière définitive. Donc, ce bain de fourmis n'est d'ailleurs pas unique aux corbeaux. Il y a d'autres oiseaux, hein, les grives, les merles également, qui pratiquent ce rituel. Ça suggère donc le phénomène est plus universel qu'on le pense. Il a ainsi été observé sur presque tous les continents et chez plus de 200 espèces d'oiseaux qui appartiennent à plusieurs ordres, c'est ce qu'expliquent les chercheurs. Donc le comportement de tous ces animaux soulève encore bien des questions et il sera passionnant de suivre les futures recherches pour savoir si l'intention derrière cette pratique sera un jour confirmée par la science. Mais voilà, ils connaissent un secret, ces corbeaux, que l'on ignore pour se soigner naturellement, c'est de prendre un bain de fourmis. Bah écoutez, Je vous propose, pendant le titre que nous allons écouter avant de nous quitter, d'essayer de voir si vous avez des fourmis près de chez vous et de voir ce que ça peut provoquer après tout. Idiot, Jovedine et Jean Felzine sur l'antenne de Graphite. C'est un titre que j'écoutais souvent l'année dernière dans les émissions de Biotine et il s'avère que je le retrouve dans la playlist qui est mise à notre disposition. Je me suis fait un petit plaisir personnel. J'aime beaucoup ce titre, je le trouve très beau. C'était Idiot sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission, parce qu'on arrive déjà à la fin. Ça passe tellement vite. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Bien évidemment, d'ici là, vous avez la possibilité de nous réécouter avec la rediffusion de l'émission mardi matin à 10h, de pouvoir nous écouter toutes les émissions de Biotine sur l'antenne, sur le site internet de Graphite, graphite.net bien sûr, pour ceux qui souhaitent récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de votre radio curieuse. On se retrouve donc samedi prochain. D'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble de nos programmes. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À bientôt, au revoir.